J'ai un cadeau pour vous, Paul, fit-elle doucement. Et avant qu'il eût pu lui demander de quoi il s'agissait, il n'était pas sûr du tout de désirer un cadeau de la part d'Annie, elle poursuivit. Il y avait un verglas terrible sur la route. J'ai failli me mettre deux fois dans le fossé. La seconde fois, la vieille Bessie s'est mise à tourner sur elle-même, tout en continuant de descendre le long de la route. Elle rit joyeusement. Puis, je me suis trouvé prise dans une congère, à peu près vers minuit. Mais un véhicule de déblaiement des travaux publics de Stice est passé avec une sableuse et m'a aidé à me dégager. La peste soit de Stice et de ses travaux publics, dit Paul. Mais ce qui sortit de sa bouche était un bredouillis incompréhensible. Apes, soit ust, avo, puic. Les 3 kilomètres depuis la Grand Route, c'était le dernier morceau difficile. La Grand Route, c'est la Nationale 9, comme vous savez, celle sur laquelle vous avez eu votre accident. Elle avait été sablée jusqu'au diable Vauvert. Je me suis arrêté à l'endroit où vous aviez quitté la route et j'ai cherché votre voiture. Je savais ce que j'aurais à faire si je l'avais trouvée. Car il y aurait des questions et j'aurais été la première à qui on les aurait posées, pour des raisons que vous devez connaître, je pense. J'ai quelques longueurs d'avance sur vous, Annie. Cela fait déjà 3 semaines que j'ai examiné ce scénario. L'une des raisons pour lesquelles je vous ai amené ici, c'est parce qu'il me semblait qu'il y avait là plus qu'une simple coïncidence. J'ai l'impression d'y voir la main de la Providence. Qu'est-ce qui vous donne cette impression, Annie ? Réussit-il à demander. Vous avez eu votre accident presque exactement à l'endroit où je me suis débarrassé de ce minable Pomeroy, celui qui se prenait pour un artiste. Elle eut un geste de mépris de la main, bougea les pieds, et il y eut de nouveau ce bruit sourd de bois que l'on heurte. Je l'ai ramassé en revenant d'Estes Park. J'y avais été pour une exposition de céramique. J'aime bien les petites statues en céramique. J'ai remarqué, dit Paul. Sa voix lui faisait l'effet d'avoir couvert des années-lumière. « Capitaine Kirk, une voix nous parvient par le subéther, » pensa-t-il en étouffant une envie de rire. Le recoin sombre tout au fond de lui, celui que la drogue n'avait pas atteint, essaya de l'avertir de la fermer, simplement la fermer. Mais à quoi bon ? Elle était au courant. « Bien sûr, elle est au courant. » La déesse abeille des Bourkas est au courant de tout. Le pingouin sur son bloc de glace me plaît particulièrement. Merci, Paul. Il est mignon, non ?
Pomeroy faisait de l'autostop. Il a prétendu être un artiste. Mais je n'ai pas tardé à me rendre compte qu'il n'était rien qu'un sale oiseau de hippie drogué, et qu'il venait de faire la plonge pendant 2 mois dans un restaurant d'Estes Park. Quand je lui ai dit que j'avais une maison à Sidewinder, il a parlé d'une véritable coïncidence. Justement, il allait à Sidewinder. Un magazine de New York l'aurait envoyé pour dessiner les ruines du vieil hôtel, soi-disant que ses dessins devaient accompagner un article qu'il écrivait sur cet hôtel. Un vieil hôtel célèbre qui a brûlé il y a 10 années. L'Overlook. C'est le gérant qui a mis le feu. Il était cinglé. C'est ce que tout le monde dit en ville. Mais peu importe, il est mort. J'ai laissé Pomeroy s'installer ici avec moi. Il a été mon amant. Elle le regarda de ses yeux noirs dans lesquels brûlait une flamme, au milieu de ce visage à la fois compact et pâteux. Et Paul pensa, si Andrew a été capable de te sauter, ma vieille, c'est qu'il était aussi cinglé que le gérant qui a foutu le feu à son hôtel. C'est alors que j'ai découvert qu'il n'était nullement chargé de faire des dessins de l'hôtel. Il dessinait pour lui en espérant pouvoir les vendre.
Il n'était même pas sûr que le magazine voudrait de son article sur l'Overlook. Ça, je n'ai pas tardé à le découvrir. Après, j'ai jeté un coup d'œil en cachette à ses esquisses. Je me sentais tout à fait le droit de le faire. Après tout, je le nourrissais et il couchait dans mon lit. Il n'y avait que 8 ou 9 dessins dans tout le carnet, et ils étaient affreux.
Son visage se plissa et pendant un instant, il crut qu'elle allait se mettre à imiter le cri du cochon.
J'aurais pu faire mieux que lui. Il est arrivé pendant que je l'ai regardé et il est devenu furieux. Il m'a dit que je l'espionnais. Je lui ai répondu que j'avais bien le droit de regarder ce qui se trouvait chez moi, que ce n'était pas de l'espionnage. Je lui ai dit aussi que s'il était un artiste, alors j'étais Marie Curie. Il s'est mis à rire.
Il se moquait de moi.
Alors je...
Vous l'avez tué, compléta Paul avec quelque chose d'obscur et d'ancien dans la voix.
Elle adressa un sourire gêné au mur. Eh bien, je suppose que c'est ce qui est arrivé. Je ne me souviens pas très bien. Simplement, à un moment donné, il était mort.
Cela, je me le rappelle.
Je me rappelle aussi lui avoir donné un bain.
Il la regardait, les yeux écarquillés, remplis d'une ignoble nausée d'horreur. L'image du corps nu de Pomeroy lui vint à l'esprit. Cadavre flottant dans la baignoire de la salle de bain du bas, comme un morceau de chair crue. La tête appuyée de travers contre la porcelaine, les yeux grands ouverts tournés vers le plafond.
Il le fallait, reprit-elle, les lèvres lui découvrant un peu les dents.
Vous ne vous doutez pas de ce que la police peut faire avec un simple bout de fil, ou un peu de boue sous les ongles, ou même avec la poussière dans les cheveux d'un cadavre.
Vous ne le savez pas, vous. Mais moi, j'ai travaillé toute ma vie dans des hôpitaux.
Et je le sais. Je sais tout sur la médecine légale.
Elle était en train de se lancer toute seule dans l'une de ces crises frénétiques à la Annie Wilkes, et il n'ignorait pas qu'il aurait dû essayer de dire quelque chose, au moins pour la calmer temporairement. Mais il n'arrivait pas à remuer ses lèvres paralysées. « Ils sont tous après moi, tous. Croyez-vous qu'on m'aurait écouté si j'avais essayé d'expliquer ce qui s'est réellement passé? Le croyez-vous? Le croyez-vous? Oh, que non! Ils auraient sans doute inventé quelque chose d'absurde du genre. Vous avez essayé de le draguer, il s'est moqué de vous et vous l'avez tué. Je suis sûr qu'ils auraient dit un truc comme ça. »
« Et tu sais quoi, Annie? Tu sais quoi ? Quelque chose me dit que c'est peut-être bien la vérité.
Tous ces sales oiseaux sont capables de raconter n'importe quoi pour me faire des ennuis ou traîner mon nom dans la boue. »
Elle se tut non pas haletante, mais respirant avec force, et le regardant durement, comme si elle le mettait au défi de dire le contraire. Et c'est donc un peu... Puis elle parut reprendre plus ou moins le contrôle d'elle-même, et elle poursuivit d'une voix plus calme.
« J'ai lavé, eh bien, ce qui restait de lui, et ses vêtements.
Je savais ce qu'il fallait faire. Il neigeait dehors, c'était la première véritable neige de la saison, et il paraît qu'il y en avait 30 centimètres le lendemain matin.
J'ai mis ses vêtements dans un sac de plastique, et enveloppé le corps dans des morceaux de drap, puis j'ai tout emporté jusqu'à ce ravin à sec de la Nationale 9, une fois la nuit tombée. Je l'ai descendu sur un peu plus d'un kilomètre par rapport à l'endroit où est tombée votre voiture, jusqu'à ce que j'arrive dans les bois. J'ai tout laissé là. Vous vous dites que j'ai dû essayer de le cacher, mais non. Je savais que la neige allait le recouvrir, et je m'étais dit que la crue de printemps l'emporterait si je le mettais dans le lit à sec. Et c'est exactement ce qui est arrivé, sauf que je n'aurais jamais cru qu'il irait si loin. Vous vous rendez compte ? Ils ont trouvé le corps une année après, sa mort, et presque à 45 kilomètres d'ici. En fait, il aurait mieux valu qu'il aille moins loin, car il y a toujours des randonneurs ou des gens qui observent les oiseaux dans la réserve de Grider. On trouve beaucoup moins de monde dans les bois autour d'ici. Elle sourit. Et c'est là où se trouve votre voiture en ce moment, Paul. Quelque part entre la Nationale 9 et la réserve naturelle de Grider, au fond des bois. En tout cas, assez loin pour ne pas être vu de la route. J'ai un projecteur sur le côté de la vieille Bessie, un projecteur puissant. Mais le ravin était vide jusqu'à la lisière de la forêt. Je crois que j'irai à pied pour vérifier quand le niveau aura un peu baissé, mais je suis à peu près sûr que ça ne risque rien. Un chasseur finira bien par la trouver dans 2, 5 ou 7 ans, tout rouillé, avec des nids de tamia dans les sièges. Et à ce moment-là, vous aurez fini mon livre. Et vous serez de retour à New York ou Los Angeles, ou n'importe où vous aurez envie d'aller. Et moi, je vivrai tranquillement ici. Peut-être que nous nous écrirons de temps en temps. Elle eut un sourire embrumé, le sourire d'une femme qui découvre un ravissant château dans le ciel. Puis ce sourire disparut, et elle redescendit vers la réalité. Donc je suis revenu ici. Mais en chemin, j'ai beaucoup réfléchi. Il le fallait bien, car la voiture ayant disparu, cela voulait dire que vous pouviez vraiment rester, que vous pouviez réellement finir mon livre. Avant, j'étais loin d'en être sûr, même si je ne vous en ai jamais parlé, pour ne pas vous bouleverser. Je ne le voulais pas en partie parce que je savais que vous ne pourriez pas écrire aussi bien. Mais c'est une explication bien froide par rapport à ce que je ressens réellement, cher ami. Voyez-vous, j'ai commencé par aimer seulement cette partie de vous-même, capable d'écrire ces merveilleuses histoires, car c'était tout ce que j'avais de vous. Je ne savais rien du reste, et je pensais que ce reste n'était peut-être pas très agréable. J'ai lu des choses sur ceux que l'on appelle les auteurs célèbres, et je sais qu'ils sont souvent parfaitement désagréables. Tenez, Scott Fitzgerald, Ernest Hemingway, et cette espèce de bougeux du Mississippi, Faulkner, un truc comme ça. Eh bien, ces types ont beau avoir gagné le prix Pulitzer ou le prix machin, c'était rien que des voyous, des biscornouilles d'ivrognes. Il y en a d'autres aussi. Quand ils n'étaient pas à écrire leurs merveilleuses histoires, ils buvaient, couraient les filles ou se droguaient au Dieu seul sait quoi encore. Mais vous n'êtes pas comme ça. Et au bout d'un moment, j'ai fini par connaître le reste de Paul Sheldon. Et j'espère que vous ne m'en voudrez pas de le dire. Mais j'ai aussi fini par aimer ce reste. Merci, Annie, répondit-il du sommet de la vague dorée et scintillante où il était juché tout en pensant. Mais tu m'as peut-être mal déchiffré, ma grande. Je veux dire que les occasions d'être induit en tentation sont sévèrement rationnées pour moi par les temps qui courent. Dur de faire la tournée des bars avec les deux jambes cassées, Annie. Et pour ce qui est de m'envoyer de la cam, après tout, c'est la déesse abeille des Bourkas qui s'en charge en personne. Mais est-ce que vous alliez vouloir rester, reprit-elle. Telle était la question que je devais me poser. Et j'avais beau vouloir me voiler la face, je savais bien quelle était la réponse à cette question. Je le savais même avant de voir les marques sur le chambranle. Elle fit un geste en direction de la porte et Paul se dit « Je parie qu'elle le savait depuis le tout début. » Se voiler la face ? Non, pas vous, Annie, pas toi. Je le faisais assez bien pour deux, non ? Est-ce que vous vous souvenez de la première fois où je suis parti, après cette stupide dispute à propos du papier ? Oui, Annie. C'est à la suite de ça que vous êtes sorti pour la première fois, non ? En effet. Il était inutile de le nier. Évidemment, vous aviez besoin de votre nouvelle. J'aurais dû savoir que vous feriez n'importe quoi pour la voir. Mais quand je deviens furieuse, je suis... Vous savez. Elle eut un petit rire nerveux. Paul ne l'imita pas, ne sourit même pas. Le souvenir de cet épisode, des souffrances de son corps supplicié et de la voix du commentateur sportif fantôme était encore trop cuisant. Oui, je sais comment vous devenez folle alliée. Tout d'abord, je n'étais pas tout à fait sûr. Oh, bien sûr, j'ai vu que certaines des céramiques avaient changé de place sur la petite table. Mais je me suis dit que c'était peut-être moi. Par moments, je ne sais plus très bien ce que je fais. L'idée que vous étiez sorti de la chambre m'a traversé l'esprit, puis je me suis dit « Non, c'est impossible. Il est trop gravement blessé. Et en plus, j'ai fermé la porte à clé. J'ai même vérifié que la clé n'avait pas bougé de ma poche. Puis je me suis souvenu que je vous avais retrouvé assis dans le fauteuil. Alors je me suis dit que peut-être... Une chose que l'on a apprise, si l'on est resté 10 ans infirmière, c'est à vérifier ces peut-être. J'ai donc examiné les affaires que je laisse dans la salle de bain du bas. Ce sont surtout des échantillons que je ramenais à la maison pendant que j'exerçais. Vous devriez voir tout ce qui peut traîner dans les hôpitaux, Paul. Si bien que de temps en temps, je me faisais un petit extra avec. Et je n'étais pas la seule. Mais j'ai toujours eu la prudence de ne pas toucher aux produits à base de morphine. Ceux-là sont sous clé. On les compte. Ils sont fichés. Et si on s'aperçoit qu'une infirmière chaparde, qu'elle récupère, comme on dit, on la surveille jusqu'à ce qu'on en ait la preuve. Et alors, hop ! Annie donna du tranchant de la main sur le lit. À la porte. Et la plupart du temps, elle ne remette jamais la coiffe blanche. Mais moi, j'étais plus maligne que ça. Quand j'ai regardé dans les cartons, j'ai eu la même impression qu'avec les céramiques sur la petite table. L'impression que l'on avait fourragé parmi les boîtes. Et j'étais presque sûr qu'un des cartons qui se trouvait dessous était passé dessus. Mais j'aurais pu tout chambouler moi-même pendant que j'étais préoccupé. Puis, 2 jours plus tard, alors que je n'y pensais plus, je suis venu vous donner vos 2 gélules de l'après-midi. Vous dormiez encore. J'ai essayé de tourner le bouton de la porte, mais il a résisté pendant quelques secondes, comme s'il était bloqué. Puis il a tourné et j'ai entendu quelque chose faire un bruit métallique à l'intérieur. Vous avez alors bougé et je vous ai donné vos gélules, comme d'habitude, comme si je ne me doutais de rien. C'est quelque chose que je sais très bien faire, Paul. Ensuite, je vous ai aidé à vous installer dans le fauteuil afin que vous puissiez écrire. Et c'est en vous aidant que j'ai eu ma révélation comme saint Paul sur le chemin de Damas. Mes yeux se sont ouverts. J'ai vu à quel point vos couleurs vous étaient revenues. J'ai vu que vous pouviez bouger les jambes. Elles vous faisaient mal. Et vous ne pouviez pas les bouger beaucoup, mais tout de même un peu. Et vos bras étaient aussi devenus plus forts. J'ai vu que vous vous portiez presque bien. C'est à ce moment-là que j'ai compris que je pourrais avoir un problème avec vous, même si personne de l'extérieur n'avait de soupçon. Je vous ai observé et je me suis dit que je n'étais peut-être pas la seule à bien savoir garder un secret. Cette nuit-là, je vous ai donné un médicament légèrement plus actif, et lorsque j'ai été bien sûr que même l'explosion d'une grenade à côté du lit ne vous réveillerait pas, j'ai pris ma petite boîte à outils dans l'atelier et je suis venu démonter cette serrure. Voyez un peu ce que j'ai trouvé. Elle prit dans la poche de la poitrine de la chemise masculine qu'elle portait un petit objet noir qu'elle déposa dans la main engourdie de Paul. Il la rapprocha de son visage et contempla la chose d'un œil rond de chouette. C'était un fragment tordu d'épingle à cheveux. Paul commença à pouffer sans pouvoir se retenir. « Qu'est-ce qu'il y a de si drôle, Paul ?»« Le jour où vous êtes allé payer vos impôts en retard, j'avais besoin d'ouvrir la porte encore une fois. » Et ce fauteuil roulant, il est juste un peu trop large. Il laissait des marques noires. Je voulais les faire disparaître autant que possible.
Pour que je ne les voie pas, évidemment. Mais vous les aviez déjà remarquées, non?
Alors que j'avais trouvé le morceau d'épingle dans la serrure?
Elle sourit pour elle-même. Un peu, mon neveu. Paul acquiesça et rit encore plus fort. Au point que bientôt les larmes lui coulèrent des yeux. Tout ce travail, toutes ces inquiétudes, tout cela pour rien, ça lui paraissait délicieusement drôle.
Je craignais que le morceau d'épingle ne me trahisse, avoua-t-il, mais rien n'arrivait. Je ne l'ai jamais entendu grincer.
Il y avait une bonne raison à cela, non? Il ne grinçait pas parce que vous l'aviez enlevé. Quelle mystificatrice vous faites, Annie!
Oui, répondit-elle avec un sourire fin.
« Quelle mystificatrice je fais !»
Elle remua les pieds. Et le bruit étouffé du bois que l'on heurte retentit à nouveau au pied du lit.
« Combien de fois êtes-vous sorti en tout ?»«
Le couteau. »«
Oh Seigneur, le couteau !»«
Deux fois. Non, attendez. » Je suis ressorti hier après-midi pour remplir le pichet d'eau vers 5 heures.
C'était vrai. Il avait rempli le pichet d'eau. Mais il avait omis de dire la principale raison de cette troisième expédition. Cette principale raison se trouvait sous le matelas. La princesse et le petit pois.
Polly et le couteau a égorgé le cochon.
3 fois en comptant celle-ci.
Dites-moi la vérité, Paul.
Rien que 3 fois, je vous le jure. Et jamais pour m'en aller. Nom de Dieu, j'écris un livre ici, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué. N'invoquez pas en vain le nom du Seigneur, Paul. Arrêtez d'invoquer le mien de cette manière et j'en ferai autant, peut-être. La première fois, la douleur était tellement atroce que j'avais l'impression que quelqu'un m'avait envoyé en enfer et que j'y baignais jusqu'à la taille. Et quelqu'un m'y avait envoyé. Vous, Annie. Taisez-vous, Paul. La deuxième fois, je voulais simplement trouver quelque chose à manger et faire des provisions au cas où vous resteriez parti longtemps. » Continua-t-il en ignorant son interruption. « Et enfin, j'ai eu soif. C'est toute l'histoire, pas une conspiration. »
« Et bien entendu, vous n'avez ni décroché le téléphone, ni examiné les serrures, puisque vous êtes un gentil garçon. »
« J'ai essayé le téléphone, évidemment. Évidemment, j'ai examiné les serrures. » De toute façon, je n'aurais pas été bien loin dans ce bourbier, même si les portes avaient été grandes ouvertes.
La drogue le submergeait de vagues de plus en plus puissantes, et il commençait à ne plus avoir qu'une envie, qu'elle se tue et qu'elle s'en allât.
Elle l'avait déjà drogué suffisamment pour le contraindre à dire la vérité. Il avait peur de devoir en subir rapidement les conséquences, mais auparavant, il voulait dormir.
Combien de fois êtes-vous sorti ?
Je vous ai dit combien de fois ?
Sa voix s'élevait.
Dites-moi la vérité.
C'est ce que je fais 3 fois.
Combien de fois, bon Dieu ?
En dépit de la dose éléphantesque de drogue qu'elle lui avait injectée, Paul commença à se sentir effrayé. Au moins, si elle veut me faire quelque chose, ça ne pourra pas me faire trop mal. Et elle veut que je finisse le livre. Elle l'a dit.